Je lui vole ses lignes. Ça choque mon père, à qui je l'avoue, alors qu'on passe en voiture à côté du cimetière dans lequel son père est enterré. Elle est encore vivante, à moitié vivante, déjà un peu morte, mais trop vivante pour qu'on lui vole sa vie. Mon père ne veut pas voir. Il est dans le livre et ça ne le regarde pas. Je comprends mon père. Le texte de sa mère est trop douloureux. Lui, ses sœurs, son frère, ont tous un rapport compliqué à la vie de leurs parents qu'ils ont à leur tour transmis à leurs enfants. Une vie dont ils connaissent des bribes qui leur restent obscures et inaccessibles. Comment pourraient-ils se figurer l'enfance de leurs parents dans des langues qu'ils ne parlent pas et des lieux qui n'existent plus? Comment pourraient-ils se figurer, en ayant grandi dans le confort d'un appartement parisien, ce que fut l'enfance d'enfants cachés de leurs parents? Mes grands-parents, en mourant, laissent derrière eux une traînée de documents administratifs, des cartes d'identité tamponnées comme dans les livres d'histoire, des laissez-passer de toutes les tailles et de toutes les couleurs, des lieux de naissance imprononçables. Cela se passe comme dans le livre de Georges Perec, Ellis Island, à la page « Ne devoir la vie qu'au hasard et qu'à l'exil ». J'aurais pu naître comme des cousins proches ou lointains, à Raïfa ou Baltimore, à Vancouver. J'aurais pu être argentin, australien, anglais ou suédois, mais dans l'éventail à peu près illimité de ces possibles, une seule chose m'était précisément interdite, celle de naître dans le pays de mes ancêtres et d'y grandir dans la continuité d'une tradition, d'une langue, d'une communauté. Je grandis avec des grands-parents français qui ne le sont pas, au-dessus de l'abîme où se brise leur langue d'enfant. Moi non plus, je ne lis pas ma vie. Je parcours le texte en diagonale à toute vitesse. Le temps de m'apercevoir que j'écris l'histoire de ma grand-mère en même temps qu'elle écrit la sienne.